Radio Foot International. CAN Total. Égypte 2019. Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International en ce jeudi veille de match. Et sachez que nous sommes aussi en Facebook Live comme chaque jour, vous en avez sûrement pris l'habitude. Vous pouvez nous regarder, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Alors aujourd'hui dans Radio Foot, eh bien comme nous en sommes à J-1, 28 heures à peine avant le coup d'envoi de la finale Sénégal, nous allons prendre le pouls des supporters avec cette attente ou comment la tromper. Nous irons du côté de Dakar et d'Alger pour savoir comment on tue le temps et comment on se prépare pour ce match qui déchaîne les passions. Sadio Mané peut-il remporter le Ballon d'Or cette année? Que lui manque-t-il à l'attaquant des Lions de la Teranga, vainqueur avec les Reds de la Ligue des Champions, co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre? Plus de reconnaissance réclame-t-il? Plus de reconnaissance pour la CAN, bien sûr. Et puis l'AG de la CAF au Caire, les membres de la Confédération africaine ont entériné ce matin l'arrivée de la déléguée générale pour l'Afrique, la Sénégalaise Fatma Samoura. La CAF mise au pas par la FIFA ou pas, nous en parlerons dans Radio Foot aujourd'hui. Invité en ce jour, Carlos Bianchi. Bonjour Carlos.
Bonjour à tous.
Il y a à vos côtés Naïm Moniol. Bonjour Naïm.
Salut Annie, salut à tous.
C'est le gang des chemises blanches. Ouais. En face, on a plus de couleurs parce qu'on a fait dans le blanc aujourd'hui sans le vouloir, sans se concerter. Patrick Juillard, bonjour.
Voilà, je ne participe pas à cet hommage déguisé à Hervé Renard. Bonjour à toutes et à tous.
Frédéric Suto, bonjour.
On amène un peu de couleur. Bonjour Annie. Bonjour à tous.
Allez, Radio Foot, c'est parti.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Flying to the moon, mais qui ira décrocher la lune demain au Caire? Les lions cosmonautes de la Teranga ou les fennecs astronautes? Seront-ils les Neil Armstrong et Buzz Aldrin d'il y a 50 ans? Ils sont tous dans leur fusée à cette heure, une sorte d'Apollo 11 qui emporte 22 hommes à bord pour décrocher une sorte de pierre de lune, un trophée doré appelé sur Terre Coupe d'Afrique des Nations. C'est la journée spéciale sur RFI pour les 50 ans du premier alunissage, vous l'entendez depuis ce matin, et on s'est dit qu'on pouvait nous aussi embarquer vers les étoiles. Alors un match, Carlos Bianchi, on pourrait imaginer un match sur la Lune, non? Un match en apesanteur dans la poussière?
Oui, pourquoi pas? Ça fait rêver, non?
Mais, ça pourrait faire
tu
rêver.
Tu sais, un jour, le président de l'Argentine, il a dit, on va faire en une heure Buenos Aires-Tokyo. On va aller à la stratosphère, on va aller tellement rapidement. Il y a des choses que tu ne peux pas...
Vous croyez qu'on mettait qu'une heure.
Respect quand même.
Je suis sûr que ça arrivera un jour. On ne sera plus là, hein, dans des centaines d'années, des milliers
avec
d'années.
Avec des grosses bottes.
La Ligue
hein,
des Champions délocalisera la finale sur la Lune.
Oui, ou peut-être le trophée des champions ou des choses comme ça. Oui.
Quand on aura fait tous les pays, il faudra bien aller ailleurs, sur une autre galaxie.
Donc. Oui, pour chercher toujours plus de supporters.
Voilà, la Lune.
Nos étoiles à nous sont africaines, celles du foot et celles qui disputeront la finale, donc demain, J-1. Et nous allons partir grâce à notre vaisseau Radio Foot vers Dakar. Dakar et son étoile sur le drapeau. Et puis nous irons à Alger et son croissant de lune sur son drapeau. Alors d'abord, dirigeons-nous vers Dakar. Dakar où, nous disaient aujourd'hui nos confrères du journal Le Monde, les maillots se vendent comme des baguettes, tout autant au marché que dans les beaux magasins de sport. Et nous sommes en ligne avec un supporter, un vrai supporter, nous dit-il, Bourama Goudiabi. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous depuis Dakar. Alors, vous êtes responsable des supporters du club Casasport, un club de football du Sénégal et du championnat sénégalais. Mais vous êtes aussi, j'imagine, avant tout supporter des Lions de la Teranga. Est-ce que vous êtes nerveux, Bourama?
Je dis bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, je suis supporter des Lions. Je suis un des responsables du comité national des Casas. le comité de supporters du Casasport, en fait, qui vient supporter les Lions à tous les événements et à tous les matchs, et qui supporte aussi les équipes nationales du Sénégal. Nous sommes tendus, si je dis que je ne suis pas tendu, ce serait vous mentir, mais franchement, on est tous tendus à attendre le sacre des Lions pour demain soir.
Vous attendez le sacre, comment vous l'attendez avec vos amis, avec vos camarades? Qu'est-ce que vous faites pour passer le temps?
Ben, depuis le début de la Coupe d'Afrique, on n'arrête pas de faire des répétitions, de préparer la Coupe d'Afrique. Et vu qu'on a préparé la Coupe d'Afrique jusqu'à arriver au stade des finales, aujourd'hui, on est vraiment très content, on est très heureux d'arriver en finale avec cette équipe du Sénégal. Donc là, nous sommes en train de faire des répétitions pour préparer. Demain, ce sera l'apothéose à Dakar et dans toutes les régions du Sénégal avec Ali Kaza. Parce que nous allons nous déplacer pour aller animer les différentes fan zones du Sénégal dans tout le temps du territoire. Et puis voilà quoi, nous sommes en pleine répétition. Donc les rues sont peintes aux couleurs des drapeaux du Sénégal. Il y a les maillots qui se vendent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc vraiment, c'est l'apothéose à Dakar.
Est-ce que vous répétez, ça veut dire que vous répétez des danses ou vous répétez des chants?
Nous répétons des danses, nous répétons aussi des chants. Parce que le comité Ali Kaza a créé des chansons pour les joueurs comme Sadio Mané, comme Crépin Diaka, comme l'entraîneur même Aliou Cissé. Et aujourd'hui, l'avenir nous a donné raison parce que la chanson qu'on avait faite à Aliou Cissé quand il est venu prendre l'équipe nationale du Sénégal, c'était de lui dire que tu es venu prendre l'équipe nationale du Sénégal, tu vas tout entendre, on va t'insulter, on va tout te dire, mais il faudra que tu sois fort et que tu tiennes debout. Et puis, aujourd'hui, l'avenir nous a jugé, il a amené cette équipe-là en Coupe du Monde et aujourd'hui, cette équipe est en finale de la Coupe d'Afrique.
Racontez-nous ce qui se passe dans les rues du Sénégal, dans les rues de Dakar. Est-ce qu'on sent quelque chose, que cette finale aura lieu demain, avec les couleurs, avec l'ambiance, avec des klaxons?
Oui, on le sent bien sûr à Dakar, on le sent parce que tous les rues sont peintes aux couleurs du drapeau national, les drapeaux sont attachés dans tous les balcons, tous les fenêtres, les véhicules, tous les véhicules ont leur drapeau, les mobilettes, les scooters, tout le monde a son drapeau et vous le sentez vraiment parce qu'il y a des klaxons partout et il y a les gens qui vendent aussi les petits klaxons qui vendent aux enfants et tout ça dans tous les coins de rue, les gens klaxonnent, les gens crient. Il y a vraiment l'ambiance à Dakar, quoi. Les gens, vraiment, ils sentent qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer demain. Quoi.
Alors, vous nous dites que vous chantez pour les Lions de la Teranga. On va entendre un petit peu votre musique. Est-ce que vous leur chantez pendant les matchs? Bon, Romain, restez en ligne avec nous et on va partir du côté d'Alger. Bon, on va y aller d'ici quelques instants, alors on va attendre un petit peu pour joindre Alger. J'aurais une dernière question alors pour vous. Où est-ce que vous allez suivre la finale? Est-ce que vous allez la suivre au cœur de Dakar, dans des quartiers de Dakar? Comment vous allez vous organiser?
Là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire où est-ce que je serai demain, mais ce qui est sûr, c'est que je vais la suivre quelque part au Sénégal, parce que le comité Ali Kaza a étendu ses bases sur cette finale-là. Nous aurons un groupe de supporters qui sera à Saint-Louis, un autre groupe de supporters qui sera aussi à Ziguinchor, un autre à Thiès, deux autres à Dakar, parce que c'est pour animer aussi les différents fan zones. Il y aura d'autres qui seront à la place de la Nation à Dakar et d'autres qui seront au terrain des AKPS, des parcelles FMI pour animer les différentes fan zones. Parce que nous chantons en fait quand l'équipe nationale joue. Nous chantons, nous dansons, en fait c'est la tradition qu'on connaît au comité Ali Kaza. Et d'ailleurs c'est ce qui nous a valu le trophée Fair Play de la CAF, des CAF Awards de 2015. Donc nous chantons, nous dansons, nous mettons de l'ambiance quoi en fait. Donc là, toutes les répétitions qu'on est en train de faire ces temps-ci, les chorégraphies et tout ça, c'est pour pouvoir les montrer le jour de la finale, voilà, faire plaisir à tout le peuple sénégalais.
Mmh. Et pour encourager les Lions à distance. Alors on va partir quelques là. Instants, restez en ligne, hein, Bourama, on va partir du côté d'Alger. One, two, three, vive Alger. One, two, three, vive Alger. One, two, three, vive Alger. Quelque des difficultés pour joindre l'Algérie. Bourama, une dernière chose alors avec vous. Qu'est-ce que vous dites aux supporters d'en face? Est-ce que vous leur dites bonne chance? Est-ce que vous leur dites que le meilleur gagne?
Ben, je leur dis que le meilleur gagne, que le meilleur gagne. C'est, on est en sport, donc que le meilleur gagne, quoi. Voilà, on va tout faire dans le fair play, parce que nous, avec ça, on le connaît, tout ce que nous le faisons dans le fair play. Donc, je leur dis que le meilleur gagne, quoi. Voilà, que ça soit une belle fête pour toute l'Afrique, et une belle fête du football, une belle fête du sport africain. Et puis, on aura l'occasion demain de voir à travers les fanzones, les différents fanzones, les Kazakhs à faire. Malheureusement, on n'a pas pu être cette année à la Coupe d'Afrique. On y était à la Coupe du Monde. Par faute de moins, on n'a pas pu être à la Coupe d'Afrique pour pousser le long, pour leur donner cette énergie positive qui leur pousse à se surpasser. Mais on le fera d'une autre manière ici, dans les différentes fanzones organisées dans ce pays-là.
Oui, vous êtes avec la plus grande fanzone des Lions, je pense, même si on les a vus.
Exactement, c'est ça.
On les a vus et entendus hein, sur RFI, ceux qui sont aussi du côté du Caire. On va essayer d'aller du côté d'Alger. C'est compliqué, la communication avec Alger. On verra quand on arrivera à aller du côté d'Alger, où nous attend aussi un supporter.
Vous Merci. Savez pourquoi, Annie, c'est compliqué? C'est parce qu'ils sont en mode avion.
Ils sont tous
une trentaine
en essayant de décoller effectivement pour partir du côté. Non mais lui on l'avait prévenu théoriquement, il était pas en mode avion. Merci beaucoup Bourama.
Et j'espère qu'ils vont dormir jusqu'après le match.
Ça c'est ce que vous leur souhaitez, n'est-ce pas?
Merci. Je le souhaite, bien sûr. Qu'ils dorment jusqu'à ce que la finale se joue et que le Sénégal remporte le trophée, et que je les inviterai après à venir fêter la fête, l'accueil des Lions ici à Dakar le lundi ou dimanche prochain.
On va lui en dire. Merci beaucoup Bourama Godiabi d'avoir été en direct avec nous de Dakar. Mille merci et bonne chance à vos Lions. Alors on est supporters, nous on est pour les deux, mais on vous dit bonne chance. Merci beaucoup. En attendant qu'on arrive à joindre les supporters des Fennec, moi j'aimerais vous demander une chose, Carlos Bianchi, du côté des joueurs et du côté du staff, ceux qui les entourent, hein, alors il y a toujours au moins, j'imagine, 23 joueurs plus une trentaine de personnes, le sélectionneur, évidemment, qu'est-ce qu'on dit à des joueurs, qu'est-ce qu'on fait avec des joueurs à 24 heures du coup d'envoi d'une finale? Et vous l'avez bien vu, là, c'est une finale tellement importante pour les deux côtés.
Pas l'expérience. Il faut pas jouer le match avant. Parce qu'à moi, ça m'arrivait déjà, une fois, d'avoir fait jouer mes joueurs, quand j'étais entraîneur de Vélez, pour aller jouer à Boca Juniors, je les fais jouer le match dans la semaine.
C'est-à-dire?
En lui disant qu'on était beaucoup plus fort, qu'on allait les manger, que tout ce que vous pouvez le dire à une équipe pour les qui va jouer à l'extérieur. Mmh. On arrivait le dimanche, on n'a pas joué. On a perdu 1-0.
Vous aviez déjà joué le match?
On avait joué le match. La question, et après on a, heureusement j'ai joué une dizaine, une quinzaine de finales,
et vous comme en avez entraîneur, gagné beaucoup.
Et je peux vous assurer qu'il faut les jouer au moment que vous arrivez le match. Il ne faut pas les parler aux joueurs tellement avant, parce que déjà ça fait plus de 3 semaines qu'ils sont au Caire, qu'ils sont en Égypte.
Bien sûr, qu'ils sont tous ensemble.
Il n'y a aucun problème, vous l'avez dit pendant les 3 semaines, tout ce qu'il fallait le dire.
Et là quoi, vous les laissez tranquilles?
Oui, et après préparer le match tactiquement comme il faut.
Mais sur un tableau, avec des vidéos.
Oui, pas du côté émotionnel. Pas de les parler tellement de que c'est le match de leur vie et toutes ces choses-là, parce qu'ils savent très bien, eux. Il ne faut pas charger plus. Par contre, ce qu'il faut répéter et réfléchir très bien, qu'il ne faut pas se tromper tactiquement. C'est un des matchs que ça joue à pas grand-chose. C'est lui qui se trompe un petit peu. Il perd le match.
Les détails, Naïm, c'est évidemment ce qu'il faut préparer pour ce match.
On dit toujours que dans ces matchs-là, c'est les détails qui font la différence. Voilà. Donc après, les détails, il y a détails et détails. Hein. Je crois que ces deux équipes-là sont bien encadrées par Liu Cissé et par Belmadi. Je pense qu'elles ont un jeu qui est rodé. Les gammes, elles ont été répétées durant toute la compétition. Ce genre de match, c'est dans la tête que ça joue, et Carlos le dit très bien. Il ne faut pas la jouer avant, il ne faut pas la gagner avant. C'est dans la tête. Si on se voit trop beau, si on pense déjà à l'après, c'est mort, c'est foutu. Il faut vraiment la jouer à partir de 21h, mais les gammes, les détails, à ce niveau-là, c'est réglé, ils sont prêts. On va pas leur apprendre à jouer au foot 24 heures d'une finale.
Il y a quand même un élément particulier, c'est que les deux équipes se sont déjà rencontrées au premier tour, lors du deuxième match de la phase de poule. Donc c'était un match sans enjeu, puisque elles avaient toutes les deux gagné leur premier match, donc il n'y avait pas une tension incroyable. Mais l'Algérie a gagné. Évidemment, après cette défaite, Aliou Cissé a opéré des ajustements, donc ce sera pas le même Sénégal que nous verrons demain. Mais je pense qu'il faut pas non plus que l'Algérie se dise on les a battus une fois, donc on est forcément meilleur. Si ce sera, comme l'a dit Belmadi aujourd'hui en conf, c'est un match couperet, c'est une finale, c'est pas la même chose. Donc, si l'Algérie ne garde la tête froide, elle aura bien raison. Il faut pas qu'elle se dise que c'est gagné, même si évidemment. C'est un petit avantage
la
quand même.
Pression.
Ça peut être un piège. C'est difficile. Voilà.
Si on veut parler
un tournoi, une équipe que vous la rejouez comme ça sur la finale. Alors c'est peut-être plus vrai dans d'autres sports, mais retrouver le même adversaire, c'est pas forcément celui qui a gagné trois semaines avant qui a l'avantage.
Il n'y a aucun avantage.
C'est plutôt l'inverse.
C'est un match complètement différent.
Les Sénégalais, ils se disent bon ben nous on n'a rien à perdre, ils nous ont battu.
Si on veut parler de pression, vraiment, je pense que l'Algérie l'a un peu plus. Parce que d'abord, elle a gagné le match de poule, et puis surtout parce que c'est celle qui, aux yeux de tous, joue le mieux, et qui est favorite naturelle, parce qu'elle a un très beau niveau de jeu sur cette compétition.
Ça se discute, parce que le Sénégal est très attendu.
Mais sur le jeu, on ne le voit pas gagner par rapport à l'Algérie.
Oui, c'est l'Algérie a gagné la CAN une fois, le Sénégal.
Mais Sénégal, défensivement, il est très costaud. Hein.
Oui, attention,
il n'y a pas de
Koulibaly suspendu.
On va y venir. On va y venir, mais notre supporter des Fennec est en ligne. Et on va donc aller prendre le pouls dans ce pays, dans les rues d'Alger, de cette passion débordante que l'on voit, que l'on entend. Tarek Saadi, bonjour. Tarek ?
Il est parti.
Bon, décidément, nos amis Alice Ménard et ceux qui sont derrière la vitre essayent de faire le maximum avec David Finzel, mais décidément, ça ne passe pas, ils veulent pas.
Le Fennec est un animal insaisissable.
Hein. Oui, c'est peut-être ce à quoi vont se heurter demain les Lions. Carlos, vous vouliez ajouter quelque chose, pardon ?
Non, que moi, je pense que surtout, c'est un match spécial pour la simple raison de que, non parce qu'ils se sont rencontrés avant, il y a une équipe qui l'a gagné, parce que ça sert à rien, mais c'est que les deux pays ont besoin d'être champions. C'est là la question.
C'est triste ça, non?
Non,
c'est difficile. Vous aviez, début des années 2000, Cameroun, Nigeria, sur une dizaine d'années, qui se retrouvaient en finale une fois sur deux. Bon, là, il y a une telle attente des deux côtés que
il y a cette affiche inédite.
Il faut voir aussi quelque chose, c'est que c'est la manière aussi dont les sélectionneurs vont aborder cette finale, parce que tu sais que la formule de la CAN dorénavant, elle va qualifier plus d'équipes et que sur la CAN 2021, il faudra un accident pour voir ni le Nigeria ou l'Algérie. Tu sais que tu n'en es pas encore aux qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, au-delà du titre qui serait le premier du Sénégal ou le premier depuis 29 ans pour l'Algérie, est-ce que si Aliou Cissé perd cette finale, est-ce qu'il est encore sélectionneur du Sénégal après-demain? Tu vois, cette question, tu peux te la poser lui. C'est aussi dans cet état d'esprit-là qu'il aborde la finale.
Mais Naïm, s'il la gagne, il peut aussi partir.
Il peut choisir de partir, bien sûr, mais on est tout à fait d'accord.
Mais là, ça
ce que je veux te dire, c'est que la situation de Cissé vis-à-vis du public sénégalais, des observateurs, n'a jamais non plus été très claire. Elle a toujours été critiquée, toujours été. Même les anciens lui en ont mis un petit peu plein la figure. Donc voilà, lui, il aborde aussi cette finale comme ça, au-delà du jeu, au-delà de gérer l'adversaire. Techniquement, tactiquement, de gérer la fraîcheur physique, parce que c'est pareil, hein. Les mecs, ils ont fait 60 matchs dans l'année, ils sont assez carbo complètement.
Et là, ils sont dans 30 à 35 degrés depuis plusieurs jours.
Dont les sélectionneurs vont aborder cette finale. C'est aussi eux qui la jouent et la manière dont ils vont la gérer, la gagner ou la perdre.
Jamel Belmadi est plutôt au début d'un cycle. Aliou Cissé, lui, ça fait 4 ans qu'il est sélectionneur, donc c'est long, 4 ans en Afrique.
Puis je pense que Belmadi, il a réussi sa CAN. Alors évidemment, la gagner, ça serait merveilleux. Mais l'Algérie a réussi sa CAN. Rappelez-vous, l'Algérie, il y a 6 mois, personne ne met un COPEC sur eux en finale. Il a déjà réussi ça. L'adhésion du groupe, se pacifier avec les supporters, avec les médias.
Et puis le futur qui se profile.
Si c'est, il y a eu l'élimination en quart il y a 2 ans. Il y a eu l'élimination au premier tour qu'on lui pardonne pas de la Coupe du Monde parce qu'il avait gagné le premier match. On verrait d'un mauvais œil, même s'il fait une finale et que c'est très dur de faire une finale de CAN, on verrait d'un mauvais œil sa défaite.
L'enjeu est différent, effectivement. Ouais. Mais hier, Habib Bey nous expliquait très bien comment, selon lui, cette équipe du Sénégal a grandi et s'est servie de ces échecs-là pour en faire quelque chose de positif. Je voulais parler de Koulibaly. Koulibaly, on a eu hier des informations, hein, Patrick, qui circulaient beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, il y avait cet appel un peu à la
sorte de pétition en ligne.
Voilà, au support. supporters en disant soutenez-le, il faut qu'il joue et tout ça. Khalidou Koulibaly, finalement, la CAF n'a pas été très sensible, disons, aux arguments défendant le double cas, comme on l'appelle, ouais. Khalidou Koulibaly, malgré sa demande de clémence, hein, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui, en général, se comporte bien sur un terrain. Les instances du football n'ont pas voulu annuler les deux cartons jaunes qui font qu'il est puni pour cette finale.
Alors, ça peut paraître sévère qu'il soit suspendu pour deux cartons jaunes, surtout les cartons jaunes en question, mais la CAF n'avait déjà pas accepté la requête du Bénin qui demandait la requalification de Khaled Adenon pour le quart de finale pour la même raison. Donc on voyait mal la CAF maintenant devenir clémente pour Koulibaly.
Mais la demi-finale, il faudrait pas les gens qui prennent un carton, s'ils sont en carton déjà, d'être suspendus pour la finale.
Dans ce cas-là, vous rappelez pas les cartons après les quarts de finale.
Oui, c'est ça. Vous rappelez pas. Mais 1990. L'Argentine-Brésil. L'Argentine, il bat le Brésil en 0. Et l'arbitre français, Boutreau, il a donné un carton à Caniggia parce qu'il a contrôlé le ballon de la main. Il n'a pas joué la finale. Il n'a pas joué la finale parce que tu as touché le ballon de la main.
Ouais,
il faut être dans l'esprit de jeu.
C'est disproportionné, c'est vrai.
C'est disproportionné, mais la CAF ne pouvait pas revenir en arrière. Non, vous imaginez, c'est politique. C'était vraiment mettre de l'huile sur le feu.
Si tu fais ça, ça faisait une exception.
Tu crées un précédent. Le problème, c'est que tu crées un précédent. C'est que ça va à l'encontre du règlement. Déjà qu'il y a eu un changement d'arbitre un petit peu lourd, on ne comprend pas pourquoi.
Ouais, non, mais il faut changer.
Déjà, maintenant, les cartons sont remis à zéro après le premier tour.
C'est ça, en fait. C'est déjà les poules, ils sont déjà. Donc, on ne peut pas remettre non plus les cartons à jour à chaque fois.
En Afrique, non.
En Afrique, si c'est remis à zéro après le premier tour.
Ils l'ont fait. C'est le 8e, 4e.
Et voilà, c'est ça. 8e, quart, demi.
Mais là, cette année, comme on est passé à 24 équipes, il y avait un tour de plus, il y avait des 8e. Donc, le risque de se prendre deux cartons était beaucoup plus grand.
Surtout pour un défenseur.
On mettait ensemble tous les défenseurs d'Algérie et tous les défenseurs du Sénégal. Il n'y a pas un plus fort que Koulibaly. Hein.
Ça, c'est sûr.
C'est le plus fort de tous. Hein.
Absolument. Dans le monde, il n'y a pas beaucoup de défenseurs plus forts que Koulibaly. Ouais.
Non, mais il est
dans... Voilà, mais c'est vrai, ça fait la peine.
Là, on en parle parce que c'est Khalidou Koulibaly. Ça aurait été un défenseur...
quelconque.
À la renommée moindre, oui, quelconque, entre guillemets, sans leur faire injure.
Non, mais
bon.
Il y avait déjà
au moment du coup d'envoi.
Mais c'est dommage.
Il y a déjà eu quand même des changements dans la charnière du Sénégal, puisqu'au premier match, c'est Salif Sané qui s'était blessé, ce qui avait obligé Aliou Cissé à faire jouer Sékou Kouyaté, qui est plus un milieu défensif de formation. Là, il va devoir faire jouer Sané, sans doute, et Kouyaté, qui sont plutôt deux joueurs qui jouent axe droit. Donc forcément, comme Koulibaly lui joue axe gauche, il faudra qu'il travaille les automatismes.
C'est pas facile. Hein.
Au-delà
c'est
pas du
facile.
Jeu...
Attention, quand il joue en arrière central, des côtés droits, qu'il faut qu'il joue à gauche...
C'est pas évident.
C'est
donc
pas
ils
pareil,
ont
intérêt
à bien travailler ça. Quoi.
Et puis, au-delà du jeu, c'est quand même un leader, Khalidou Koulibaly. C'est un joueur extraordinaire. Avec Mané, c'est la star de l'équipe. Il a de l'expérience. Il a l'habitude de jouer des grands attaquants. Lui, il peut affronter Mahrez, il n'y a pas de souci.
Et puis, il transmet beaucoup de calme et de sérénité, Khalidou Koulibaly.
C'est le meilleur défenseur du Sénégal.
Vous pouvez le voir sur notre Facebook Live, cet appel qui avait circulé sur les réseaux sociaux. Je mérite de jouer la finale. Malheureusement, le mérite n'a rien à voir dans cette histoire et tristement,
ça nous
mais logiquement, voilà.
Laurent Blanc,
98, privé de finale en 1998. Mais malgré tout, je pense que quand son équipe gagne, il a autant savouré et finalement les gens le considèrent autant comme un champion du monde.
Parce qu'il a joué tous les matchs.
Bien sûr, il a joué toute la compétition.
C'est un des meilleurs défenseurs de la compétition et
évidemment.
Là son rôle de leader va être très 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 important au-delà de son rôle de leader de terrain. C'est la manière où il va accompagner le groupe jusqu'à la finale, ce qu'il va leur dire avant le match, ce qu'il va leur dire à la mi-temps. Il peut pas se substituer évidemment au sélectionneur, mais là ça va être important.
Et ça peut même souder le groupe avec cette idée, on va la gagner pour
lui. Parce que des fois, quand il vous manque quelqu'un, que vous savez très bien que c'est très important, le reste, il donne un 10% de plus chacun pour faire oublier celui qui manque. Attention, c'est comme ça des fois les joueurs.
Effectivement, ça peut arriver.
Alors, pour ce qui est d'aller sur la Lune, c'est peut-être plus simple que d'aller jusqu'à Alger pour nous aujourd'hui. Donc, on va rendre hommage aux supporters algériens qui chantent depuis si longtemps dans les rues. Alors, à la fois pour leur faire manifestation politique, mais aussi pour encourager les Fennecs, cette Casa del Mouradia. Et demain, nous irons du côté d'Alger, juste avant la finale.
Allez consommer, je suis là.
l'image pour ceux qui nous regardent sur le Facebook Live, eh bien, ce sont les supporters de l'USMA, hein, de l'USM à Alger, qui avaient commencé ce chant qui aujourd'hui a complètement débordé les stades, qui s'est répandu dans toutes les rues de l'Algérie et même dans les stades d'Égypte où se trouvent les supporters. N'oublions pas donc demain le coup d'envoi, ça sera à 21h, heure de Paris, donc à peu près dans 27h maintenant. Des supporters des Lions de la Teranga qui, avec leur guitare, tout simplement, c'est pas de la bossa nova, Carlos Bianchi, ce sont des Sénégalais qui chantent eh bien, les louanges de leur sélectionneur, parce que il n'y a pas que des critiques, hein, y a aussi cet Aliou Cissé, évidemment, 2002-2019, évidemment, beaucoup de ponts sont faits entre les deux histoires, beaucoup de parallèles. Sadio Mané, dans cet effectif, sera-t-il l'homme de cette finale, l'homme que l'on attend, bien sûr, vu son palmarès, vu ses capacités, vu ses dons, vu son talent, sera-t-il l'homme de cette CAN? Sera-t-il surtout le joueur qui pourrait, cette saison, ravir le ballon d'or à ses éternels favoris? On voit beaucoup circuler cela sur les réseaux sociaux. Alors, on peut penser à, il y a tout juste un an, Luka Modric, hein, le Croate, qui, eh bien, après avoir brillé en Russie, même sans avoir gagné la Coupe du Monde, eh bien, a été récompensé de ce fameux ballon d'or en faisant de l'ombre aux éternels favoris que sont les deux grands, dont je ne dirais même pas les noms. Comme tout footballeur, en tout cas, il en rêve, Sadio Mané, et il réclame plus de respect pour la compétition africaine qu'il dispute en ce moment. Écoutez le cri du cœur de Sadio Mané, c'était au micro de nos confrères de la BBC.
Je pense que c'est ce cri du cœur qui, à un moment donné, nous devons tous le faire, parce que je pense que c'est pas normal de ne pas considérer la CAN comme les jeux de tournoi, comme la Copa, l'Euro ou autre. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui est vraiment dommage aujourd'hui. Et je pense qu'avec tout le respect que je pense qu'il faut que ça cesse, et vraiment il faut que ça cesse.
Patrick Juillard, sur le plan de prendre en compte d'abord la valeur de la CAN, est-ce que vous sentez peut-être, grâce au fait que de grands joueurs la disputent et sont de plus en plus visibles et vus, est-ce que ça peut maintenant donner plus de valeur à la CAN?
Ouais, je pense, parce que là déjà c'est une CAN à 24, donc le vainqueur a d'autant plus de mérite, quoi. Il sort d'un vainqueur d'un plateau plus élargi. Après, c'est en été également, au moment où toutes les autres grandes compétitions se jouent, donc je pense que ça peut contribuer à un peu crédibiliser l'événement, et surtout, c'est plus près du vote. Quand la CAN avait lieu en janvier, le vote du Ballon d'Or avait lieu en novembre, c'est beaucoup trop tard. Là, c'est plus près, ça restera plus dans les têtes. Après, Sadio Mané, il faut rappeler quand même que depuis George Weah, qui avait gagné en 95, aucun Africain, non seulement ne l'a gagné, mais n'a été sur le podium. Ni Drogba, ni Eto'o, ni Salah, ni Mahrez, ni d'autres n'ont été sur le podium. Mais... Donc, si Sadio Mané déjà était sur le podium, ce serait énorme. Et s'il le gagnait, et moi je pense qu'il a les prétentions, il peut le faire, ce serait encore plus extraordinaire.
Pourquoi pas,
Carlos?
Pourquoi pas?
Il parle de la Copa. Il était,
meilleur buteur de l'Angleterre.
Co-meilleur buteur, ils sont trois.
Oui, ils sont trois. Mais il était
trois Africains en plus.
Voilà.
Champion d'Europe. Pour moi, il a fait une saison plus belle. Lui que Salah.
Oui,
il était
exactement.
Plus fort, lui, que Salah.
Exactement.
Cette saison, il n'a pas la même notoriété.
L'argument. Ah,
non, oui, parce que la saison de Salah l'année dernière, avec ses 44
parce
buts.
Parce que Salah, l'année auparavant, il avait été très fort. Oui. Mais pas l'année dernière.
C'est sûr.
Alors, la question, elle est là. Et Mané, pour moi, s'il fait un grand match en finale, il peut bien être Ballon d'Or, pourquoi pas.
Et l'argument CAN.
Naïm.
J'y crois moyennement, d'abord parce que aujourd'hui ce qui prévaut, c'est la Ligue des Champions, c'est la compétition majeure, et c'est là où Mané marque énormément de points vis-à-vis des autres, c'est que lui il l'a gagné. C'est surtout ça, gagner la CAN, évidemment c'est un plus et c'est une reconnaissance, c'est un titre majeur, c'est un titre majeur, tout ce que vous voulez, mais on va pas se mentir non plus, la CAN et le footballeur africain part quand même avec un déficit de reconnaissance vis-à-vis des Européens, même s'ils ont pas gagné de compétition. Donc Mané, et c'est quand Patrick disait Drogba et tous ont pas été sur le podium, c'est clairement ça, parce qu'eux aussi ils le méritaient sur le talent pur. Donc voilà, Mané aujourd'hui il a gagné la Ligue des Champions, son argument majeur il est là. Gagner la CAN, faire une bonne CAN, il est co-meilleur buteur, très bien, ça lui donne du crédit en plus. Mais le simple fait de gagner la CAN, j'arrive pas à me dire
que d'ici 4-5 mois, surtout qu'on va avoir toute une demi-saison de jouer avant le vote, de se dire que grâce à ça, il va être Ballon d'Or et supplanter Messi, Ronaldo et machin et Mbappé.
Excusez-moi,
j'ai du mal.
Mais Modric, après la Coupe du Monde, avec la Croatie, il n'a rien fait au Real Madrid.
Mais Modric, il a gagné la Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue des Champions, Carlos.
Et lui aussi.
Mais c'est pour ça, c'est pour ça que je te dis que son argument majeur, il est là.
Avec la Coupe du Monde.
Avec plus Mané.
Sur la Lune, par rapport à la
Avec plus Mané. Il a fini parmi les trois meilleurs buteurs. Et en plus, il y a la Champions. Il était
tu prêches un convaincu, Carlos. Ouais, moi, je veux bien. Je te dis que son argument de massue, il est là. C'est la Ligue des Champions. Parce que la CAN, quand bien même il la gagnerait, ça ne pèse pas suffisamment dans le concert du foot mondial et aux yeux des gens qui votent pour prétendre à récompenser un joueur qui a gagné la CAN.
Et parfois, on gagne et la Ligue des Champions et la Coupe du Monde et on n'est pas sacré avec un ballon d'or, comme ce fut le cas de Raphaël Varane.
Exactement.
Mais ce qui est passionnant, c'est que si le Sénégal gagne la CAN, il va y avoir débat, en tout cas. Jusqu'au moment du vote, là, jusqu'à l'automne, il y aura du lobbying, il y aura, on pourra dire, mais attendez, Sadio Mané se doit d'être sur le podium, comme on disait, Griezmann, Varane se doivent de l'être, parce qu'il faut aussi regarder qu'est-ce qu'il y a en face cette année. Tout le monde disait c'est Messi depuis le mois de mai. Barcelone éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions. Ronaldo et la Juve se sont arrêtés aussi.
Je vais te dire
quelque
chose.
Vous le donnez à qui si vous le donnez pas à Mané?
Sauf que tu sais très bien comment ça marche. C'est pas la première fois que c'est pas la première fois que Messi Ronaldo gagne pas la Ligue des Champions. Mais il suffit qu'il te mette 15 pions entre septembre et novembre, c'est plié. Et c'est plié. Mais bien sûr que si, Carlos, tu sais comment ça marche. On est dans une société d'image.
Non, mais pas facile.
On retient ce qu'on vient de voir.
Une image africaine peut émerger.
Si Messi ou Ronaldo ou Mbappé te mettent 20 pions entre septembre et novembre, c'est plié le ballon d'or.
Jusqu'à la demi-finale de Ligue des Champions et la victoire de Liverpool au match retour contre Barcelone, ce match complètement fou. Il y a même eu des débats ici où on disait que le ballon d'or s'était déjà plié. C'était pour Lionel Messi. Liverpool, il y avait Sadio Mané dans cette équipe qui a sorti Barcelone en demi.
Et moi je te dis que si entre septembre et novembre, mais comme chaque année, t'as Messi ou Ronaldo qui flambe, on va davantage retenir ça que retenir la canne.
Bah, tu verras. Mais c'est politique aussi le Ballon d'Or.
Bien sûr.
Depuis 10 ans, les voix qui comptent se fassent entendre.
Mais des joueurs qui ont été meilleurs.
Il y a du lobbying.
Mais les jeunes, ils se fatiguent.
L'avantage de Mané, c'est qu'il sera sûrement le seul Sénégalais nommé. On avait eu des problèmes pour les Français puisqu'il y avait au moins 5 ou 6 joueurs français vainqueurs de la Coupe du Monde qui étaient nommés, donc ça avait divisé et éparpillé les voix. Là, je pense que les voix africaines, disons, seront concentrées sur lui en grande majorité. Ça peut l'aider. Je serais pas aussi tranché que Naïm. Pour moi, c'est pas plié, quoi. Vraiment.
Surtout qu'il y a un joueur comme Mbappé qui n'y a pas la Coupe du Monde cette année.
Oui.
Ni l'Euro, ni rien. Les Français, ils n'ont pas beaucoup de points.
N'oubliez pas quelque chose, c'est la force médiatique là-dedans et que les journalistes se penchent beaucoup plus sur le cas d'Mbappé.
Les journalistes.
Ça se penche beaucoup plus sur Mbappé, sur Messi ou sur Ronaldo que sur Sadio Mané. Je ne partage pas cette politique. Et je suis bien d'accord pour dire que c'est dégueulasse et que
c'est
tout ce que vous
voulez.
C'est le terrain, c'est tout ce que tu veux. Mais tu sais aussi que si les autres ils te mettent 10-15 buts entre septembre et novembre et que les journalistes ils te font des tartines sur Mbappé, il va à la chasse, il va à la pêche, il va à la ferme, tu sais très bien que c'est lui qui. Mais c'est comme ça à chaque fois.
Pour que Sadio Mané ait le ballon d'or, il faut qu'il gagne la CAN. Il faut aussi que les médias poussent sûrement un peu derrière pour mettre en avant et rappeler qu'il y a une saison exceptionnelle.
On va dire ça à l'équipe et à Canal.
On verra. Parce que l'équipe, pour l'instant, ils ne parlent pas beaucoup de la CAN, mais nous, on en parle.
En page 17.
Carlos, une question. Tout à l'heure, une seule. Sadio Mané réclamait plus de respect, finalement, et qu'on donne plus d'importance à la CAN. Est-ce qu'on en donne beaucoup à la Copa América? Sur ce plan-là.
Non, je ne crois pas, parce que.
Par exemple, en Europe,
les matchs de foot, on ne regardait même pas. C'était le seul bête qui regardait les matchs.
Du tout, vous étiez le seul.
À 2h du matin.
Mais vous n'étiez pas du tout le seul.
J'en ai vu pas mal.
Eric Mamrut qui regardait aussi en Égypte.
Combien de personnes ont regardé ces dernières années, en tout cas la CAN? C'est pareil, c'était compliqué.
En France, il doit le regarder quand même.
Oui, mais c'était pas toujours accessible, c'était ça le problème aussi. Mais en tout cas, sur la valeur de la Copa América,
il faut leur donner l'importance parce que sur la plupart de ces
joueurs-là,
c'est
une compétition difficile quand même cette Copa América.
Mais bien sûr, c'est pas facile.
Justement,
que de plus en plus, il y a des Africains qui jouent en Europe. C'est comme les Argentins ou les Sud-Américains. Il y a de plus en plus de joueurs qui jouent en Europe.
Donc ça élève le niveau.
Et
ça élève le niveau.
Bien sûr, mais bien sûr. Mané, s'il aurait resté toujours là-bas, il n'aurait pas été le joueur qu'il est aujourd'hui. Il a progressé dans l'Europe.
On verra donc. Une question, messieurs aussi. On a vu que Sadio Mané avait choisi, hein, et on comprend sans doute pourquoi, mais de ne plus tirer les pénaltys à un moment. Il en a raté deux et il ne voulait plus continuer. Il s'est dit, je ne les tire plus. Est-ce que ça peut lui retirer quelque chose de son aura, bah, peut-être, pour un éventuel ballon
ça
d'or?
Ça lui retire deux buts qu'il aurait pu ajouter à son total. S'il avait marqué les deux pénaltys qu'il a ratés, il serait à 5 buts, il serait meilleur buteur avec Odion Ighalo. Là, il est possible qu'Ighalo reste meilleur buteur jusqu'au bout. Enfin, c'est pas sûr.
Non, mais le fait de Mazali,
paradoxalement,
s'il gagne la CAN et qu'il finit meilleur buteur, ça fait
justement en plus, moi, de plus. Paradoxalement, je pense que l'intelligence d'Aliou Cissé dans la gestion de Mané, c'est de lui donner moins de choses à faire pour qu'il les fasse mieux. Aliou Cissé, à partir du troisième match, a titularisé Henri Cévé, qui est un peu un deuxième meneur de jeu, qui dégage en partie Sadio Mané du poids qu'il avait dans de la conduite du jeu d'orientation. Et ensuite, les pénaltys à ne plus tirer, ça lui enlève une angoisse. Parce qu'avec deux pénaltys ratés, si il avait décidé de continuer à les tirer, ça lui aurait trotté dans la tête.
Justement, Carlos.
Henri Cévé a manqué le sien également.
Hein. Oui. Les meilleurs tireurs sont en Berne, mais ils en ont d'autres.
Ils en ont manqué trois depuis le début de la CAN.
Carlos, est-ce qu'on peut aussi se dire, et le lire comme ça, que Sadio Mané s'est un petit peu sacrifié parce qu'il sait que l'importance que peut avoir gagné cette Coupe d'Afrique des Nations, et que du coup, il préfère se mettre en retrait, même s'il pouvait ambitionner d'être le meilleur tireur, au nom du collectif, et il oublie un peu ses statistiques.
C'est l'intelligence de l'être humain.
Vous pensez ça? Vous pensez pas qu'il a eu peur?
Non.
Il recommencera
non,
de toute façon.
Non. Parce que lui, il a marqué des pénaltys dans
bien
ses
sûr.
Coupes.
Oui.
Il a marqué.
Il en a marqué un d'ailleurs.
Il a marqué un. Alors, je crois pas. Et ça, c'est l'intelligence. C'est plus important l'équipe que moi-même. Alors il réfléchit comme ça, lui. Non, pour moi c'est un des meilleurs joueurs qu'il y a en Europe. Franchement, je le connaissais pas beaucoup et depuis qu'il est à Liverpool, il fait.
On verra demain alors ce que fera Sadio Mané face à l'armada des Fennec. Allez, on continue en Afrique, on continue avec les dirigeants africains. Les dirigeants donc de ce football africain qui sont en brainstorming, on va dire, du côté du Caire, tous présents dans la ville siège de la Confédération africaine pour imaginer le futur de ce football. Hier, il y a eu un COMEX, un comité exécutif avec un nombre donc d'élus restreints, de ses représentants restreints. Aujourd'hui, il y a eu l'AG, l'Assemblée Générale, et les dirigeants du football africain ont accepté l'aide de la FIFA pour mettre de l'ordre dans leur maison. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, était là, heureux d'être appelé au secours.
Je peux vous garantir aussi, pour l'avoir vécu, que la situation de la FIFA il y a 3 ans et demi était bien pire que celle de la CAF aujourd'hui. On a remis le train sur les bons rails et avec vous tous, on compte faire la même chose pour l'Afrique et pour la CAF. En tant que président de la FIFA, je pouvais dire à la FIFA tout va bien, qu'est-ce qu'on va s'occuper des problèmes du football africain? C'est un problème africain, que les Africains le résolvent et puis après on se verra quand tout va bien. Ou bien j'avais la possibilité de m'engager, d'engager la FIFA pour résoudre ces problèmes, pour montrer au monde ce que l'Afrique sait et peut faire. Je crois en l'Afrique. Je ne suis pas africain. La CAF était contre moi lors de ma première élection. Mais je pense que j'ai réussi à vous convaincre avec la passion, avec l'enthousiasme, avec le travail et avec le cœur. Le continent que j'ai le plus visité depuis mon élection, c'était l'Afrique. On va avoir du succès si on travaille ensemble.
Et l'Afrique pour la FIFA s'appelle Fatma Samoura, c'est l'ancienne secrétaire générale donc qui devient déléguée générale pour l'Afrique, ce sera à partir du 1er août. On a l'impression d'entendre un avocat suisse, hein, n'oublions pas Gianni Infantino, et se présente en homme de paix en Afrique, c'est un peu ça Patrick Juillard.
Ouais, enfin, moi j'ai un peu de mal avec ces discours avec beaucoup de grands mots, peu de
beaucoup
concret,
d'emphase, oui.
C'est la novlangue des dirigeants de ce monde, je me sens très loin de tout ça. Je trouve qu'il balait pas beaucoup devant sa porte non plus, parce qu'il nous explique en gros que à l'époque d'Ayatou l'Afrique était contre lui, mais maintenant tout va bien. Bon, voilà, c'est une vision un peu après
idyllique.
Après moi le déluge, quoi. Mais je vois pas tellement. Pour moi, là, il y a un audit qui va être conduit parce qu'il y a eu des dérives financières qui sont encore
assez énormes.
Les affaires continuent de sortir. Il y a une sorte de football leaks là sur le foot africain. Est-ce que c'est vraiment pour faire du bien à l'Afrique? Il faut évidemment assainir les choses. Est-ce que la FIFA est la mieux placée, vu son pédigré à elle, pour le faire? J'en suis pas sûr.
Frédéric Suto, est-ce qu'on a l'impression que c'est une mise sous tutelle? Parce qu'on a bien entendu le président Hamad hier dire.
On a l'impression qu'on revient 40 ans en arrière là, avec l'Occident, l'Europe qui parle à l'Afrique. On va vous prendre par la main, on va vous expliquer comment ça marche. Bon, non, moi je rejoins ce que dit Patrick. Là, la FIFA, des affaires, des casseroles, il y en a beaucoup. Et là, il arrive le sauveur Infantino. Je crois qu'il a surtout besoin des voix africaines pour assurer sa réélection ad vitam aeternam. Donc tout va bien. Hein, je suis là et continue à voter pour moi. Ça lui va.
On a vu Naïm Ognol, l'UEFA, qui s'est élevé un peu contre cette mesure, non pas parce qu'elle se sent menacée pour l'instant, mais surtout parce qu'elle dit que finalement, dans les statuts, n'existe pas genre d'intervention dans la confédération.
Il faut rappeler que les confédérations ne sont pas affiliées à la FIFA, ce sont les fédérations nationales.
C'est-à-dire
que la fédération sénégalaise, nigérienne, bien sûr, algérienne, c'est affiliée à la FIFA, mais pas les confédérations, même titre que l'UEFA, que la CONMEBOL. Donc c'est évidemment une mise sous tutelle. Alors aujourd'hui, Gianni Infantino, en homme politique très adroit qu'il est, il a aussi une image de monsieur propre quand il arrive à la FIFA. C'est pour ça, c'est pour nettoyer. Donc il arrive à la FIFA de manière un petit peu très habile, en mettant d'abord une Africaine à la tête de cette fameuse commission, de ce fameux audit.
Secrétariat.
En disant, une Africaine, ça passe mieux. Puis deuxièmement, en faisant dire à Hamad, oui, c'est une collaboration. On sait très bien que Hamad aujourd'hui, il est dans une situation où, s'il ne se soumet pas à la FIFA, il vire. Sa tête est sur le bio, tout le monde le sait. Donc il va ouvrir les portes, il va mettre tout ce qu'il peut mettre à disposition de la FIFA et au passage faire un petit nettoyage en dégageant à droite à gauche des mecs avec qui il est en conflit ou qui pourraient à un moment donné se retrouver contre lui pour sauver sa tête. Donc il est entièrement soumis à la FIFA et Gianni Infantino le sait très bien, c'est un discours d'homme politique ce qu'on a entendu. Mais à ce niveau-là, c'est de la politique. Gianni Infantino va aller faire de la politique en Afrique. Est-ce que, a fortiori, c'est pour avoir des voix, essayer d'être conduit? Très certainement, mais il faut pas oublier quelque chose, c'est que aujourd'hui, Gianni Infantino, il est réélu parce qu'il est tout seul. Si demain, vous avez un adversaire qui arrive avec un projet un peu plus séduisant où l'Afrique a un rôle majeur, il peut être en difficulté. Ça, faut pas l'oublier.
Carlos, un petit commentaire. Infantino, il fasse un discours politique.
Oui, c'est un homme politique.
Quelqu'un à sa place, il ferait la même chose. Celui qui était président de la UEFA, celui qui est président de la FIFA, ou de la CONMEBOL, ou de la CAF. Sont tous pareils, les dirigeants. Ou tu crois que tu vas les changer?
Quand je crois rien.
Quand ils prennent le micro, c'est pour faire un discours que ça les apporte quelque chose.
Carlos, il n'est même pas trop les dirigeants.
Je ne sais pas s'il est bon, s'il est mauvais.
Patrick, en tout cas, une question encore. Est-ce qu'ils avaient le choix aussi, la CAF, vu ce qui, justement, vous faites allusion à ce qui sort un peu partout en ce moment? Est-ce qu'ils avaient le choix?
Je pense que c'est un marché de dupes. C'est-à-dire que d'un côté, Hamad, qui est en difficulté, accepte ça pour sauver sa tête, en quelque sorte. Et la FIFA, peut-être qu'elle va attendre de voir jusqu'où va aller le déballage au sujet d'Hamad, et peut-être que dans un deuxième temps, malgré l'acceptation de cette mise sous tutelle, elle le lâchera dans un deuxième temps. C'est pas impossible.
Hein, n'oublions pas ce qui sortira.
Vu ce qui est déjà sorti et vu ce qui pourrait encore sortir.
Et n'oublions pas quelque chose, c'est que la relation qu'il y avait entre Blatter et Aïtou, c'était une relation qui était aussi bâtie sur la durée. Mm-hmm. Parce qu'ils ont été tous les deux pendant très longtemps à la tête de leur structure. Il n'y a pas cette durée-là et cette relation de travail entre Hamad et Infantino qui sont tous les deux des présidents et des dirigeants neufs, entre guillemets. Donc, Infantino n'hésitera à aucun moment à se débarrasser d'Hamad si jamais il se rend compte d'irrégularité, parce que ça peut à un moment donné lui rejaillir aussi dessus.
Exactement.
En tout cas, les légendes du football africain, comme les appelle le président Hamad, étaient évidemment là au Caire aujourd'hui. Elles sont invitées régulièrement et elles seront là aussi pour assister à la finale, qui sait, pour remplir le stade aussi. Et deux des plus fidèles légendes qui accompagnent souvent le président Hamad sur le terrain ont été promus par le président Hamad en personne ce matin. Il l'a annoncé en assemblée générale.
Je remercie sincèrement deux d'entre eux qui ont accepté de jouer des rôles plus officiel. À partir de maintenant, je vous informe, je vous annonce officiellement. Je m'excuse à mon comité exécutif si je n'en avais pas encore fait part, parce que c'est très personnel. C'est le président qui a choisi à ce que Samuel Eto'o et Didier Drogba sont mes collaborateurs les plus proches à partir de maintenant. Et ils occuperont des fonctions officielles. Le titre de leur responsabilité va être dévoilé prochainement. Merci Samuel. Transmet à Didier tous mes remerciements.
Alors, leurs fonctions ne sont pas encore définies, oui, mais c'est... on a un peu envie de se demander qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette galère, Didier Drogba et Samuel Eto'o.
Là, surtout, déjà, c'est Hamad, c'est Alain Delon, puisqu'il parle de lui à la troisième personne. Donc, bon, c'est... on est heureux de l'entendre.
Il a pris la décision tout seul, quand on a bien entendu.
Quand je l'ai lu, je ne l'ai pas cru, et là, je viens de m'en rendre compte.
Vous l'entendez ?
Voilà.
Vous ne croyez que ce que vous entendez, c'est ça ?
Oui, absolument. Et ensuite, moi, je ne sais pas, ce rôle, leur rôle n'est pas défini. Visiblement, ils n'avaient pas même informé, c'est le COMEX. Ouais. Je trouve que ça fait un peu coup de pub de dernière minute. Et on sait ce qu'il est advenu des FIFA Legends qui avaient été mis en place par la FIFA. Ça coûte très cher et ça ne sert à rien. Donc, ouais. Voilà.
On peut peut-être s'étonner que Didier Drogba et Samuel Eto'o aient accepté de jouer ce rôle.
Samuel Eto'o, ça t'étonne ?
Non. Il est venu voir les Lions Indomptables à Ismaïlia, ça n'a pas plu à tout le monde.
Moi, je le sens plus calculateur.
Mais je vois ce que vous voulez dire.
Je ne les connais pas ni l'un ni l'autre personnellement, mais je le sens plus calculateur et plus politique.
Mais qu'est-ce qu'il vient de faire dans cette galère?
Mais je pense que même eux ne le savent pas, en fait. C'est pas la rentrée des classes, mais la CAF a mis ses beaux habits. Elle met Drogba, elle met Eto'o, parce que c'est une stratégie d'image. C'est deux légendes, c'est deux grands joueurs. Ça permet un peu de faire passer des pilules là où c'est plus compliqué. Mais après, il faut voir leur rôle clairement et d'un point de vue
voilà.
exécutif.
Alors peut-être, Carlos, que aussi les dirigeants et les instances n'écoutent pas assez les anciens acteurs du terrain. Parce que finalement, quand on le voit, ces dirigeants, des anciens avocats et tout ça, Michel Platini, on voit comment ça s'est passé après l'aventure à l'UEFA. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être plus de compréhension quand on a été grand footballeur ?
Je crois qu'être dirigeant, ce n'est pas facile. C'est un métier. Comme être joueur de football, être entraîneur, être journaliste. Et débarquer dans un monde qui est assez... pas très poli pour un joueur de football, c'est pas facile. Alors je sais pas que Maradona il était, Platini il était au départ aussi avec Blatter,
Pelé et tout aussi.
Bon, Pelé aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut apporter à quelque chose. On peut apporter quelque chose du point de vue footballistique sur les règles du football, mais après.
Moi, je pense que, comme dit Carlos, c'est vrai que c'est un métier bien à part et que le métier de footballeur ne prépare pas forcément au métier de dirigeant. Et je pense surtout que les anciens joueurs, et notamment les anciens joueurs africains, ils seraient beaucoup plus utiles s'ils s'investissent plus près de la base, plus près du
notamment
terrain.
Notamment sur la formation des jeunes et une refonte des catégories de jeunes et des
voilà,
compétitions.
Voilà, tout ça. Là, ils seraient vraiment utiles et leur apport de footballeur serait vraiment optimisé, quoi.
C'est la fin de ce Radio Foot International, messieurs, déjà. Et comme on était en apesanteur, on va se quitter avec quelques notes de musique pour être dans le ton de la radio de RFI aujourd'hui. On va marcher sur la Lune. Marcher sur la Lune, être en apesanteur jusqu'à demain, J-1, on vous le rappelle. Si vous nous écoutez du côté de Freetime, sachez que eh bien, la FM a changé désormais à partir du 29 juillet. Plus précisément, vous pourrez nous écouter sur 89.7. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci à tous. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Alice Ménard était à la réalisation. Et pour ce qui est du Facebook Live, Swell Kedir, ainsi que Pierre Lehmann m'ont aidé. Et on se retrouve demain. Soyez au rendez-vous.